Qui ne connaît pas les tours de La Rochelle, symbole de la cité belle et rebelle ? La tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne ont bien des choses à nous apprendre sur ce destin exceptionnel. Elles sont le symbole de la défiance de la ville face au pouvoir royal, symbole aussi de la puissance de la cité. Comment sont-elles associées au développement de la ville ? Et pourquoi dit-on qu'elles furent un symbole du protestantisme ?
J'avais pourtant cru comprendre que les deux tours étaient un symbole de l'alliance faite entre le roi et la ville, à la fin du XIVe siècle.
Absolument, mais on peut dire qu'elles sont aussi un symbole d'orgueil. Je m'explique. En 1372, après une courte période d'occupation anglaise, La Rochelle redevient française. Pour s'assurer de la fidélité des Rochelais à la couronne, le roi de France, Charles V, s'engage alors à préserver la liberté de la ville. C'est dans son intérêt. La région regorge de richesses et La Rochelle est un port éminemment stratégique. Il anoblit le maire de la ville, qui fera désormais partie de l'aristocratie. Pour célébrer l'alliance du roi de France et des Rochelais, on réalise la construction de trois tours palatiales, qui sont aussi le symbole de la victoire de la ville et de son maire. Les tours seront achevées avant la fin du XIVe siècle.
Trois tours avec celle de la lanterne ?
Non, non. La tour de la lanterne date du XVe siècle. Notre ami parle plutôt de la tour de Moreuil, qui a aujourd'hui disparu. Mais vous disiez tour palatiale.
Oui, parce qu'elles sont imposantes, orgueilleuses, aussi belles que celles du roi lui-même. Chacun des capitaines des tours est tenu d'y faire résidence.
Oui, d'ailleurs, leur architecture atteste de ce rôle tout à la fois résidentiel et défensif. Il y a des espaces pour une petite garnison permanente. Plus nettement séparés, des espaces de résidence avec un confort certain pour l'époque, des chambres, un bureau, une chapelle, plusieurs latrines.
Donc, dès leur construction, les tours sont le symbole des libertés de la ville. Mais elles représentent aussi cette porte ouverte sur l'océan, et donc sur le monde.
Eh bien, en 1199, Aliénor d'Aquitaine avait accordé droit de commune aux Rochelais, créant de ce fait un espace d'autogestion. S'en suivront de multiples privilèges dont la ville va bénéficier, comme nul autre, jusqu'au XVIIe siècle.
Je vois. Ces privilèges lui permettent de développer un commerce déjà florissant. Le vin et le sel sont alors au centre des échanges commerciaux avec l'Europe du Nord et La Rochelle bénéficie d'une très ancienne tradition d'ouverture qui date de l'ordre des Templiers.
Et on peut y rajouter les conditions géographiques très favorables. Une rade très bien abritée et la présence d'un chenal qui permet de faire venir à quai des navires à coque ronde qui réclament des eaux profondes. On comprend mieux l'importance stratégique du port et le besoin qu'ont eu les hommes de le protéger. La chaîne tendue entre les deux tours était là pour en témoigner.
Si je comprends bien, avec tous ses atouts, La Rochelle s'est ouverte sur le monde grâce au commerce maritime. Et cette tradition s'est confirmée à l'époque des grandes découvertes, avec le développement du commerce vers le Nouveau Monde.
Et celui du commerce triangulaire.
Effectivement, La Rochelle sera le deuxième port du commerce triangulaire après Nantes. Mais elle ouvre aussi des voies vers les Terre-Neuve et le Canada ou encore vers les Indes.
Mais elle va aussi devenir une escale permanente pour les corsaires, les pirates sous contrat. Pendant la Troisième Guerre de Religion, au XVIe siècle, les Huguenots implantés à La Rochelle les missionneront pour défendre les intérêts de la cause protestante.
C'est vrai. La Rochelle fut aussi la capitale du protestantisme français. Encore une bravade faite au pouvoir royal. Et c'est bien sûr au sommet de la tour de la Chaîne que flottait fièrement l'étendard de la ville devenu le symbole des Huguenots.
Cet engagement pour les idées de la réforme est d'ailleurs encore un élément qui explique le destin de La Rochelle. La ville, fermée à une partie du commerce intérieur, a donc développé avec d'autant plus d'ardeur le grand commerce maritime et a accueilli toutes les idées nouvelles. Mais la ville va finir par payer le prix de ses bravades au pouvoir. En 1628, Louis XIII fait raser les enceintes de la ville, ne conservant que des ouvrages du front de mer. Les tours ont donc subsisté, mais c'en est alors fini de l'indépendance de la ville. Elle est cependant restée cette porte ouverte sur le Nouveau Monde, cette porte de l'Atlantique que surveillent majestueusement les deux tours.